Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, nous commémorons cette année le 90e anniversaire de la bataille de Verdun. Véritable mythe de l'histoire militaire, mais aussi de notre histoire nationale, cette bataille fut la dernière remportée seule par l'armée française. Michel de Gégère, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directeur des hors-séries du Figaro. Vous nous aviez présenté le hors-série consacré à Marie-Antoinette, qui est toujours disponible en kiosque à ce jour. Et vous venez de publier un nouveau numéro des hors-séries du Figaro intitulé « Ceux de Verdun, les chemins de la mémoire ». Alors, quasiment trois générations nous séparent de cet affrontement franco-allemand. Pourriez-vous, Michel de Gégère, nous en donner le contexte, nous donner le contexte de cette bataille de Verdun? Pourquoi Verdun?
Il faut se souvenir qu'en 1914, tout le monde s'imaginait, allemands et français confondus, que les combats allaient durer quelques semaines, que cette guerre allait être fraîche et joyeuse, et puis rien ne s'était passé comme prévu. Vous vous souvenez que les Allemands avaient élaboré un plan d'invasion de la France qui s'est heurté à la résistance française à la bataille de la Marne et à l'établissement donc de cet immense front de 700 km allant de la mer du Nord à l'Alsace. Et d'un autre côté, les Français comptaient sur le rouleau compresseur russe. Eh bien, ce rouleau compresseur russe avait été tenu en échec par les Allemands à la bataille de Tannenberg et à la bataille des lacs Masuriques. Et puis 1915 avait été une année sanglante, une année d'occasions manquées, d'offensives ratées. Il y avait eu la diversion imaginée par Churchill aux Dardanelles. Il y avait eu les grandes offensives de Joffre du côté de Soissons, en Champagne, dans l'Artois, qui s'étaient traduites par des pertes énormes pour l'armée française, des pertes trois fois supérieures chez les assaillants que chez les Allemands qui étaient en position de défense. Dans le même temps, on avait assisté à la défaite de la Serbie à la suite de l'entrée en guerre de la Bulgarie aux côtés des empires centraux. On avait assisté d'un autre côté à l'entrée en guerre de l'Italie, mais sans grand résultat militaire. Les empires centraux souffraient de l'efficacité du blocus maritime mis en place par les Alliés, en même temps étaient obligés de lutter sur deux fronts, car l'armée russe ne s'était pas effondrée et qu'il fallait donc avoir un front à l'est, un front à l'ouest. Alors en 1916, dans cette année 1916, d'un côté nous avons les Alliés qui préparent une grande offensive sur la Somme dont Joffre espère qu'elle sera décisive et dont il pense assurer le déclenchement vers le 1er juillet. Et puis en face, Falkenhayn s'est convaincu devant l'exemple des offensives françaises de l'inefficacité de ce type d'offensive et qu'il pense que l'armée française est au bout du rouleau, que les poilus ont fait plus qu'il n'était envisageable et qu'il faut finir d'épuiser cette armée française, de la décourager par une bataille d'anéantissement. Alors il choisit un point que les Français voudront défendre jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière heure, jusqu'au dernier moment. Et il choisit Verdun parce que Verdun, c'est la voie d'accès sur Paris. Verdun, pour les Allemands comme pour les Français, c'est un lieu symbolique puisque c'est le lieu du traité de Verdun où sont nés au fond la France et l'Allemagne par le démantèlement de l'empire carolingien. C'est aussi l'une des plus grandes concentrations de forteresses françaises qui a assuré en 1914 l'existence d'une espèce de poche face à l'avancée allemande. Mais ces forteresses ont été récemment désarmées car l'armée française avait besoin d'artillerie et ces forts sont vides d'armement lourd. Alors Falkenhayn va concentrer devant Verdun une formidable concentration de pièces d'artillerie lourde, 1200 pièces d'artillerie sur 11 km. En face, les Français ont 234 pièces d'artillerie lourde. Les Allemands concentrent également trois corps d'armée et ils vont lancer le 21 février cette offensive formidable. Alors sur la signification de la bataille elle-même, il y a encore débat car les Français et notamment le maréchal Pétain se sont demandé si vraiment l'objectif de Falkenhayn était cette bataille d'usure, cette bataille d'anéantissement, s'ils n'avaient pas rêvé au-delà de réussir un nouveau Sedan, d'attirer l'armée française et de la contourner pour la boucler. Toujours est-il que, qu'il s'agisse du rêve de faire une percée décisive ou d'une bataille d'anéantissement, l'armée allemande va échouer à Verdun devant la résistance française.
Alors, dès les premières pages de ce numéro hors série du Figaro, vous donnez le ton. Il y a des images terribles, des photos magnifiques, une iconographie très fouillée pour leur réalisme. Elle nous présente l'assaut, la mort, la peur. Vous éclairez ces photos par des citations de contemporains, Junger, Barbus, Céline, Drieux, évidemment d'Orgelès. Qu'est-ce qui fait, Michel de Gégère, la singularité de cette bataille? Comment s'est créé, au fond, le mythe français de Verdun, car il s'agit d'un mythe français. Nous reviendrons tout à l'heure sur la bataille de Verdun vue du côté allemand.
Alors d'abord, il y a le côté formidable de cette bataille par déjà son bilan. Plus de 160 000 morts côté français, 140 000 côté allemand, donc plus de 300 000 morts sur un front de 20 km. Une bataille qui a duré presque toute l'année 1916. Le fort de la bataille dure quelques mois, mais qui s'est étalé quand même sur une très longue durée. Des villages rayés de la carte, une terre meurtrie qui a mis des années, des décennies à reprendre sa forme, des forts qui ont été entièrement pilonnés par une offensive d'artillerie extraordinaire et qui aujourd'hui n'offre encore que des masses informes qu'on dirait enfoncées dans le sol. Donc il y a le caractère formidable de cette bataille. Mais il n'y a pas que cela. Il y a du côté français autre chose, c'est que comme vous le savez, le maréchal Pétain a organisé la défense de Verdun par le principe de la noria, de la relève, c'est-à-dire qu'il relevait les divisions françaises dès qu'elles étaient trop étriées, trop fatiguées, et ce qu'il fait que toute l'armée française, ou presque, une très très grande quantité de régiments, de divisions ont combattu à Verdun et un très très grand nombre de Français ont un père, un grand-père, un arrière-grand-père qui s'est battu à Verdun. Alors que du côté allemand, ce n'était pas la même chose. On laissait les divisions en leur envoyant des renforts jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Donc Verdun est devenu un mythe national parce que toute l'armée française s'est succédée là. C'est pour nous une affaire de famille. Et puis, il y a autre chose, et c'est pour cela que nous avons appelé notre hors-série « Ceux de Verdun », c'est que Verdun offre au fond un démenti à la guerre moderne, puisque le pari qui avait été suivi des Allemands, c'est celui de la concentration de matériel, de la concentration d'artillerie, et sur ce plan-là, leur supériorité était décisive, elle était de 1 à 5, et pourtant, le soldat français a tenu, et il a tenu, eh bien, non pas par le matériel, il a tenu par la volonté, par le courage individuel. On a cette première journée extraordinaire où une division entière est anéantie par l'armée allemande sous un pilonnage de 500 pièces d'artillerie qui pilonne une seule division. Et pourtant, quand les Allemands avancent, ils trouvent dans des trous, ça et là, des silhouettes grises qui les attendent et qui continuent à tirer sur l'ennemi parce que le poilu a décidé que l'ennemi ne passerait pas et qu'il défendra la terre de France. Alors je crois que c'est cela qui donne sa dimension mythique à la bataille de Verdun. C'est la bataille de la volonté, du courage individuel et le triomphe de la volonté et du courage individuel face à la guerre moderne.
Alors Henri Amouroux, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, égrène dans des textes poignants les jours les plus longs, comme il les appelle, les jours les plus longs de Verdun. Je m'arrêterai simplement sur une date, le 11 mars 1916, le journal L'Illustration, bien connu, présentait pour ses lecteurs La Voix Sacrée. Alors deux articles y sont consacrés dans leur série du Figaro. Qu'est-ce que la voix sacrée, Michel de Gégère?
Alors la voix sacrée, c'est Maurice Barrès qui l'a baptisée ainsi. C'est la route qui va de Bar-le-Duc à Verdun. Parce que les Allemands ont choisi Verdun parce que en arrière, côté allemand, il y a une très grande concentration de réseaux ferroviaires et routiers qui leur permet une alimentation régulière du front. Côté français, c'est tout le contraire. Il n'y a que trois voies ferrées dont deux sont impraticables. L'une est coupée, l'autre est bombardée dès le début de la bataille. Et la troisième, c'est le Meusien. C'est un petit chemin de fer à voie étroite et à faible capacité qui ne permet guère que d'amener 800 tonnes de fret par jour. Et tout au long de cette voie étroite, eh bien, il y a une route de terre et de boue, une route parallèle, eh bien, qui va devenir la voie sacrée parce que c'est cette route que le capitaine Doumain, qui est un polytechnicien et un artilleur, avec le soutien du maréchal Pétain, va choisir pour alimenter l'armée française en matériel et en hommes. Alors on va l'interdire à tout véhicule à cheval, à une époque où le cheval est roi. On va la réserver aux camions des berliers qui vont de façon incessante, dans une queue ininterrompue, eh bien, amener du matériel et des hommes. On réglementera la vitesse pour que les camions roulent à une allure régulière. Il sera interdit de doubler, interdit de stationner. Dès qu'un camion tombe en panne, on le jette dans le bas-côté pour que la noria ne s'arrête jamais. Et grâce à cela, eh bien, 6000 véhicules toutes les 24 heures arriveront à Verdun, nuit et jour, à amenant chaque jour 12 000 hommes et 2 000 tonnes de fret, 6 000 véhicules. Je vous rappelle qu'au début de la guerre de 14, eh bien, l'armée française en tout et pour tout disposait de 200 véhicules pour l'ensemble de l'armée française. C'est donc un effort considérable. Il faut entretenir la route. Il y a 8 000 territoriaux qui en permanence sont mobilisés pour combler les fondrières, pour remettre la route en état, pour mettre des cailloux dans les nids de poules. Et finalement, un véhicule qui arrive toutes les 5 secondes à Verdun avec des hommes et du matériel.
Il y a une véritable efficacité, efficacité d'ailleurs saluée par les Anglais.
Oui, je crois que ça a stupéfié tout le monde, d'autant que les premières heures de la bataille avaient donné l'impression d'une désorganisation complète et d'un effondrement du front à cet endroit. Et cette reprise en main par l'organisation d'une infrastructure, eh bien, a stupéfié l'adversaire autant que les alliés.
Alors, j'en viens aux Allemands. Juliette Roy-Prévost présente, elle, les positions allemandes. Quelle était et quelle est la vision allemande de la bataille de Verdun?
Alors, Juliette Roy-Prévost est une historienne qui, justement, est en train de consacrer sa thèse à cette question. On peut dire que Verdun a été, pour les Allemands, deux choses. Dans l'immédiate après-guerre, le symbole même de l'absurdité de la guerre, c'est l'endroit d'où on ne revient pas. Au contraire, dans une certaine propagande nationaliste, ça a été le symbole du courage du soldat allemand. Et il faut dire qu'en 1940, le 15 juin 1940, lorsque Verdun a été pris par l'armée allemande, eh bien, ça a été salué par le haut commandement allemand comme le couronnement des efforts de l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour les raisons que j'ai dit, cette absence de relève, Verdun n'est pas la bataille nationale, pour aussi le fait que ça a été pour eux tout de même une défaite, puisque c'était eux qui avaient engagé l'offensive. Verdun n'est pas la bataille nationale comme elle peut l'être en France, et la mémoire de Verdun est certainement moins vive en Allemagne qu'elle l'est aujourd'hui en France.
Qui a gagné la bataille de Verdun, Michel de Gers? Car c'est une question qui, au fond, fait débat. Pétain ou bien le duo Nivelle-Mangin? C'est la question d'ailleurs que pose Christian Elsett.
Eh bien, longtemps, c'est une question qui n'a pas fait débat. Dans l'immédiate après-guerre, le maréchal Pétain est le vainqueur de Verdun, universellement célébré. Et l'on peut dire que si on a fait appel à lui en 1940, c'est parce qu'il était auréolé de cette gloire d'avoir été le vainqueur de Verdun. Malgré tout, des contestations se sont élevées dès le moment de la guerre, se sont élevées dans le milieu français, exilés aux États-Unis, autour de gens comme Henri Bernstein ou Saint-John Perse, qui ont émis des doutes sur cette qualité de vainqueur de Verdun du maréchal Pétain et qui ont mis en avant le rôle de Nivelle, qui a succédé au maréchal Pétain au printemps, et de Mangin, qui avait été son adjoint. Ces doutes n'ont pas été véritablement très pris au sérieux par les historiens, jusqu'à ce que l'amiral de Gaulle relance la polémique dans ses souvenirs, en prétendant lui aussi que le maréchal Pétain n'était pour rien dans la victoire de Verdun. À cela, je crois qu'on peut répondre en citant le général de Gaulle. Le général de Gaulle célébrant il y a 40 ans le cinquantenaire de la bataille de Verdun. Voici ce qu'il disait. Si par malheur, en d'autres temps, dans l'extrême hiver de sa vie et au milieu d'événements excessifs, l'usure de l'âge mena le maréchal Pétain à des défaillances condamnables, la gloire que 25 ans plus tôt il a acquise à Verdun puis gardé en conduisant ensuite l'armée française à la victoire, ne saurait être contestée ni méconnue de la patrie. Je crois que c'est une réponse à cette polémique. Le maréchal Pétain a été nommé commandant de l'armée, la deuxième armée sur le secteur de Verdun, la rive gauche et la rive droite de la Meuse, le soir du 24 février, alors que la situation paraissait désespérée, alors que Douaumont était à quelques heures de tomber. Et dès sa nomination, il a organisé la logistique par la voie sacrée, comme on l'a dit. Il a entrepris de faire échec au hachoir allemand en rééquilibrant l'artillerie, en faisant passer le déséquilibre français de 1 à 5 à 1 à 2, et en galvanisant ses troupes pour qu'elles durent et qu'elles aussi elles usent l'adversaire, notamment en organisant ce principe de la noria, de la relève, ce qui a débouché sur, d'une part, un arrêt de l'offensive allemande et, petit à petit, une reprise d'espoir par l'armée française symbolisée par son ordre du jour du 10 avril, courage, on les aura.
Eh bien, Michel de Gégère, merci beaucoup. Je renvoie nos auditeurs donc au hors-série du Figaro, un hors-série très riche. Vous y trouverez bien d'autres articles, notamment un article consacré au général de Gaulle, qui à l'époque n'était bien évidemment pas général. Vous y retrouverez les cartes de l'affrontement, le front au 21 février, la contre-offensive, ainsi qu'une vue topographique de la bataille. Un numéro, comme d'habitude, disponible dans tous les kiosques au prix de 7,50 €. Merci, Michel de Gégère. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Au fil des pages consacré aux hors-série du Figaro. Nous partirons, je crois, dans les airs. Je ne vous en dis pas plus. Merci et à très bientôt.